Mais donc on peut continuer cet échange-là, soit sur ce thème-là ou sur d'autres sujets ou questions. Et je crois qu'il y avait en fait parmi vous des personnes qui avaient des questions, même tout à fait en dehors du thème de la sainteté, à poser. Et ça peut être le moment. Autrement, ben, moi, j'ai toujours un peu des idées de ce qui est à partager. Mais est-ce qu'il y aurait parmi vous quelques-uns ou une personne qui aimerait soumettre une question à notre perspicacité, une question qui serait restée en panne ou une question nouvelle? Pascaline avait une question. Quand est-ce qu'on rentre?
Je veux bien
voilà, Anne.
Pour commencer.
Oui.
J'en ai parlé avec Père Jean-Claude tout à l'heure. Par rapport à hier, tout ça a mûri, ça a été. On a parlé tout à l'heure aussi, mais est-ce que vous pourriez revenir sur la question de se renier, couper les liens affectifs, etc. Parce que je pense que pris comme ça, ça peut être peut-être un peu brutal. Comme,
Oui, il y a des personnes qui n'ont pas aimé ça, oui, du tout. Oui.
Parce que bon,
il y a peut-être ça, aussi, on l'est marqué.
Ça peut être la modèle.
Mais c'est vrai que tout le monde connaît ces paroles là du Christ qui dit celui qui ne se renie pas lui-même, qui ne renonce pas à lui-même, qui ne prend pas sa croix, n'est pas digne de moi. Et en fait, le Christ a dit ça sous différentes formes. Il a dit aussi celui qui ne hait pas, ce qui ne déteste pas son père et sa mère ne peut pas me suivre. Enfin, il y a quelques paroles comme ça du Christ qui sont un peu bizarres, un peu désagréables à entendre. Mais je pense que c'est assez important, évidemment, on ne va pas dire le contraire. Si on revient un petit peu là-dessus, je crois que ce qui a été interprété par les saints-pères de cet enseignement-là, concernant le renoncement, ça a été considéré toujours comme un acte extrêmement gratifiant. Je pense que c'est ça qu'il faut dire au départ, c'est qu'évidemment, quand on dit se renier soi-même, renoncer à soi, assassiner ses parents, etc., ça fait moche, évidemment, d'une certaine façon, on dit voilà. Mais en réalité, c'est un processus extrêmement gratifiant, parce que c'est un processus libératoire. En réalité, d'après ce que je comprends, à mon petit niveau, il s'agit de passer à un plan de vie qui est un plan, au fond, strictement psychologique, dans lequel jouent les attractions, les répulsions, les attachements légitimes, d'ailleurs, l'affectivité, l'émotionnel, la peur, ce qu'on appelle les passions. Un plan de l'existence qui est régi par les passions politiques, puisqu'il faut quand même en parler. Donc, le monde passionnel est passé de ce plan passionnel à un plan qui est le plan spirituel, qui est le plan de la vie selon l'esprit, qu'on peut appeler le plan pneumatique. C'est juste, c'est pas pour vous faire rire, mais en grec, pneumatikos, ça veut dire ce qui se trouve dans le registre du pneuma, c'est-à-dire de l'esprit de Dieu. Alors, évidemment, en français, quand on dit pneumatique, ça fait rire, les gens pensent tout de suite à bonhomme Michelin, ou des choses comme ça. Mais c'est un beau mot, parce que spirituel, c'est un peu abstrait. Et pneumatique, ça veut dire charismatique, ça veut dire qu'il y a la possibilité pour l'être humain de vivre selon l'esprit, avec un grand E, et donc de vivre d'une manière créatrice, d'une manière généreuse, d'une manière divine, en fait. Et alors que la vie auquel on est nous sommes habitués est une vie, effectivement, une vie psychique, une vie passionnelle. Saint-Maxime le Confesseur dit ça, il dit au fond, le plan psychique, c'est ce qui est déterminé par l'action et la réaction, ou attraction, répulsion. Je suis attiré par ceci, repoussé par cela. Bon, mais ça ne va pas plus loin que ça, vous voyez. Alors que la vie, selon l'esprit, est une vie qui est au-delà de l'attraction et de la répulsion. La preuve, c'est que ceux qui vivent selon l'esprit, qui vivent cette vie pneumatique ou charismatique, sont capables de donner leur vie même pour leurs ennemis. Normalement, un ennemi, je m'en éloigne par peur, par instinct de conservation, ou bien je essaie de le tuer pour me venger de lui. Normalement, un ennemi, je le traite au niveau passionnel. Mais celui qui vit selon l'esprit, non. Il aime son ennemi, il pense à son salut, il pense que son ennemi est plus malheureux que lui, il supplie Dieu de ne pas en vouloir à cet ennemi, il fait comme le Christ lui-même, voilà, pardonne-lui, il ne sait pas ce qu'il fait, etc. Mais c'est un tout autre plan, C'est pour ça que ça passe par, effectivement, le renoncement. Parce que le renoncement à soi, c'est renoncer principalement à l'amour de soi. À l'amour de soi, à la tendresse pour soi, qui se manifeste par toutes sortes de signes. Par exemple, l'amour, bien sûr, l'amour du confort, l'amour de la gourmandise, l'amour des flatteries, l'amour des éloges, l'amour, le besoin d'être reconnu, ça, psychologiquement, c'est quelque chose d'extrêmement important et de très, très, très gênant. Donc, ce besoin d'être reconnu, ça, c'est vraiment, on dit tout ça, moi, j'ai des amis qui sont dans le domaine de la psychologie, il me dit qu'il comprend, il a besoin d'être reconnu, Il paraît que nos hommes politiques, par exemple, la plupart d'entre eux, les plus brillants d'entre eux, ce sont des gens qui sont promus essentiellement par le besoin d'être reconnu. Cette obsession d'être reconnu qui fait qu'un jour tu deviens président de la République pour qu'un maximum de gens te reconnaissent. Mais ça veut dire que c'est intéressant. C'est-à-dire que l'ambition politique est une forme extrême et presque pathologique de l'amour de soi et de cette vie psychique. Mais l'amour de soi, si vous voulez, ne conduit à rien, parce que c'est une impasse. Et le Christ a enseigné autre chose, il n'a pas enseigné l'amour de soi, il a enseigné l'amour d'autrui et la préférence d'autrui à soi. Vous savez, il y a deux attitudes dans la vie, soit j'ai de l'amour pour moi-même et je vais sacrifier autrui à moi, je vais immoler les autres à moi, c'est-à-dire que je vais toujours sacrifier leur bien à mon bien, je vais les sacrifier à moi-même, comme si j'étais leur Dieu, comme si j'étais leur Dieu. Et l'autre attitude que celle du Christ, qui est me sacrifier moi pour eux. Alors en fait, je pense que nous allons aller du côté qui est le plus gratifiant. Parce que l'être humain est comme toutes les créatures, il va là où c'est bon, il va là où c'est chaud, là il va là où c'est agréable. Or il n'y a rien de plus agréable, de plus gratifiant, de meilleur, le plus épanouissant, le plus jubilatoire que la vie en Dieu. Et ça, il faut le dire, on ne peut pas parler du renoncement à soi et du reniement de soi-même et de la mise à mort de l'amour de soi si on ne dit pas que c'est absolument gratifiant, que le prix de cette immolation de soi à autrui, de cette immolation de soi à Dieu, de ce renoncement à l'amour de soi-même, le prix est absolument est un prix sans prix en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est l'allégresse des saints, c'est la jubilation des anges et c'est la joie divine elle-même. C'est que c'est une absolue liberté. C'est pour ça que quand le Christ a enseigné le reniement en soi, il n'a pas enseigné quelque chose de triste ou de pénible ou de disqualifiant ou de sinistre, je ne sais pas quoi, vous voyez. Il a enseigné la porte de la joie, il a enseigné la porte de l'épanouissement, la porte de la dilatation de l'être. Parce qu'en réalité, si nous regardons bien, nous voyons très bien que nous-mêmes et ceux qui nous entourent, qui sommes tellement habités par l'amour de nous-mêmes, ceci nous rend tristes. L'amour de soi engendre la frustration, l'amour de soi engendre le ressentiment à l'égard d'autrui, parce que autrui ne nous reconnaît jamais comme nous aimerions être reconnus. Autrui ne s'est pas aperçu que nous étions extraordinaires. Autrui ne nous fait pas les éloges que nous attendons, autrui ne nous aime pas comme nous pensons qu'il devrait, et nous en voulons à autrui, nous avons du ressentiment à l'égard des gens qui ne nous aiment pas, etc. Donc finalement l'amour de soi engendre la tristesse, l'amour de soi engendre l'amertume, l'amour de soi engendre la frustration, l'amour de soi, engendre cet égoïsme pathologique qui rend l'homme malade en fait, hein. La maladie de l'égoïsme. Alors que le renoncement à soi engendre la joie, la gaieté, le partage, la gratitude, la légèreté de l'être, je dirais, la disponibilité à l'événement et la louange. Et la louange. Je pense que celui qui renonce à soi est absolument disponible pour une louange continuelle. C'est quelque chose d'assez extraordinaire parce que je ne sais pas comment dire, C'est la porte de la louange, en fait. C'est la porte de la louange, c'est la porte de la célébration, c'est la porte de la connaissance, quelque part. Au fond, nous ne pourrons jamais connaître Dieu tant que nous ne renonçons pas à nous-mêmes. Parce que renoncer à soi, c'est renoncer à être son propre Dieu. C'est ça le fond du problème, en fait. Renoncer à soi, c'est renoncer, par exemple, aux éloges qu'on attend des autres. C'est renoncer à être un Dieu pour les autres. Et tant que je ne renonce pas, moi, à être Dieu, je ne peux pas connaître Dieu lui-même, puisque je suis mon propre Dieu. Je me suis fait mon propre Dieu. C'est un théologien catholique, je ne sais plus comment il s'appelle, Dreverman, c'est un théologien, non, il est catholique ou protestant, je ne sais plus, enfin, Dreverman, il a écrit un livre qui s'appelle « Le mal ». Je dis, il est courageux, ce gars-là, parce que... il n'est pas venu comme ça. Pour... Bon, eh bien, écoutez, je pense qu'il faut le féliciter. Pour commencer, c'est la première chose à faire. Mais il dit une chose extrêmement intéressante. Il dit, au fond, l'être humain s'étant débarrassé de Dieu au paradis, il lui fallait un Dieu quand même. Alors, on ne peut pas vivre sans Dieu, c'est pas vivable. Et donc, pour vivre quand même, il s'est fait lui-même son Dieu, de façon à avoir quand même un Dieu. Je simplifie un petit peu, mais c'est finalement ce qui se passe. Par exemple, dans l'amour humain, c'est un exemple très intéressant, parce qu'il est à la portée de tout le monde. Dans l'amour humain, c'est très très caractéristique que du point de vue passionnel, chacun des partenaires ou d'interlocuteurs de cet amour, sur le plan passionnel, voudrait absolument être le dieu de l'autre. Hein, ça se voit beaucoup dans la littérature. J'aime beaucoup Baudelaire. Charles Baudelaire a montré ça, a montré que la femme, par exemple, voudrait absolument être la déesse de l'homme. Adore-moi. Hein, mais mesdames, je ne veux pas vous faire injure, mais... Je pense que ça a pu vous passer par la tête un jour d'avoir envie d'être la déesse d'un homme quelque part. C'est quelque chose qui est très fort. Et chez l'homme aussi, par exemple dans la littérature, moi j'aime beaucoup la littérature parce qu'on apprend beaucoup de choses. Il y a une pièce de Molière qui s'appelle une pièce de Don Juan. Beaucoup cette pièce-là. Et Don Juan montre la même pathologie mais du côté masculin. Et c'est très très intéressant. C'est-à-dire que là, du point de vue de la pathologie amoureuse, l'homme voudrait bien être le dieu de la femme. La femme voudrait être la déesse de l'homme. Bon, quand on voit ça, même avec humour, on se rend compte qu'il y a quand même un vrai problème. Et que c'est une impasse. Et qu'un jour ou l'autre, on est tellement déçu de ne pas être ce dieu-là pour autrui qu'on en souffre terriblement. Vous voyez, ça peut être vraiment... Il y a quand même des cas où les gens sont à la porte de l'autodestruction. Telle est la frustration. C'est pour ça que... Finalement, ça ne vaut pas vraiment la peine de continuer comme ça. Je pense qu'il vaut mieux écouter la parole du Christ. Se renier soi-même, renoncer à soi, renoncer à cet amour pathologique de nous-mêmes pour entrer dans la vraie vie, la vie en Christ, qui n'est pas l'amour de soi, mais qui est l'amour de Dieu. Et à ce moment-là, mais permettez-moi de vous dire ça encore avant de poser une autre question, c'est que celui qui renonce, celle ou celui qui renonce à soi, c'est-à-dire qui renonce à cet amour, à cet égoïsme passionnel, à cet amour égoïste de soi, à cet amour de soi, en fait, à être le dieu de soi-même, le dieu de lui-même, et à ce désir d'être un dieu pour les autres. Quand même, politiquement, c'est ça aussi, tout de même, les grands tyrans, les Ceausescu, les Mussolini, etc., c'était des gens qui n'avaient... Leur obsession, c'est d'être quand même un dieu pour les autres, vous voyez. Il y a quand même quelque chose chez nous qui est maladif, c'est-à-dire... S'il n'y a pas de Dieu, le Dieu c'est moi. Et à la limite, pour être moi Dieu, il ne faut pas qu'il y ait d'autres dieux. C'est Dieu ou moi. Hein? C'est quand même très simple. Il n'y a pas la place pour deux dieux. Ça c'est quand même le langage qui est dans beaucoup de cultures, ça. Mais alors donc celui qui renonce à ça, à ce propos d'auto-divinisation, d'auto-déification, d'idolâtrie de soi, etc., tout ce que je viens d'expliquer. Vous savez ce qu'il trouve ? Il trouve le vrai amour de soi. C'est pour ça que je pense que ça vaut vraiment la peine. Que le Christ, vraiment, comme toujours, nous parle avec tout son amour, toute sa miséricorde, toute sa bonté, tout son sourire. Moi, je pense que le Christ était un Dieu-homme extrêmement souriant, avec quelquefois pas mal d'humour quand même. Ouais. Il y a des choses dans l'Évangile qui sont quand même assez drôles, qui montrent que le Christ était... Il souriait quand même beaucoup, vous voyez. Mais toujours, il propose quelque chose de positif, toujours il propose quelque chose qui va agrandir l'homme et qui va le rendre heureux. Alors qu'est-ce qui va être, rendre l'homme heureux? C'est qu'en renonçant au faux amour de soi, qui est un amour idolâtre, donc en se reniant soi-même dans ce sens-là, il va découvrir le vrai amour de soi. Et le vrai amour de soi, c'est d'arriver à s'aimer comme Dieu nous aime. C'est tout à fait autre chose. Parce que figurez-vous que nous sommes aimés de Dieu. Donc si nous arrivons à remplacer, principalement par le mécanisme de la repentir, ou par la démarche du repentir, le faux amour de soi par un vrai amour de soi, en fait c'est l'amour que Dieu a pour nous que nous découvrons. Nous découvrons que nous sommes aimés de Dieu. Nous découvrons que Dieu veut que nous, veut notre salut. Alors qu'est-ce que ça veut dire le salut? Il veut que nous participions à sa vie. Et nous aperçons que c'est ça le vrai amour de soi. M'aimer moi-même vraiment, c'est me préoccuper de mon salut. Avoir un vrai amour, c'est-à-dire un amour selon Dieu pour moi-même, c'est donner à moi-même des bonnes nourritures, la parole de Dieu, la prière, la fréquentation des saints, le repentir lui-même, une prière de louange un peu intelligente, toutes ces bonnes choses que je peux faire pour moi-même quand je m'aime vraiment, c'est-à-dire quand je m'aime selon Dieu. Donc je peux passer du faux amour de moi-même au vrai amour de moi-même. C'est l'intérêt du renoncement, du reniement à soi. C'est pour ça que le Christ dit, celui qui perd sa vie, la trouve. Il la trouve. On ne perd pas sa vie pour rien. Nous ne devenons pas chrétiens pour rien, nous ne sommes pas idiots quand même. Vous voyez, nous sommes des gens extrêmement intéressés, extrêmement pratiques. Nous avons tous compris, c'est pour ça que nous sommes chrétiens, qui avaient tout à gagner à l'être. En fait, la perspective de la vie en Christ est tellement gratifiante pour l'être humain, tellement épanouissante, tellement dilatante, que ça vaut vraiment absolument la peine de faire ce chemin-là. Et d'ailleurs, si vous regardez les exemples, je conclue après pour donner la parole à Père Jean-Claude, tous les saints qui ont suivi le Christ et qui ont donc sont renoncés à eux-mêmes pour trouver le véritable amour d'eux-mêmes en Dieu, tous ces saints-là ont été des êtres de lumière, de joie, d'épanouissement, des êtres dilatés, des êtres absolument beaux en Dieu, tous.
Pardon. C'est une question. Tu dis qu'il faut que perdre sa vie, il n'y a rien de plus beau que de perdre sa vie pour... on gagne sa vie en la perdant. Oui. Mais celui qui a perdu sa vie parce qu'il a été blessé par d'autres, parce qu'il a été renié par d'autres, parce qu'il a été blessé dans son enfance, parce qu'on lui a volé sa vie, qu'est-ce qu'on répond à ça?
Alors ça, c'est une question
très... Parce que là, tu dis, si volontairement, je me renie.
Oui.
Bon, donc je gagne ma vie, ça je
comprends.
Pas de problème. Mais dans le cas où on m'a volé ma vie, où un adulte m'a volé ma vie, où un amour m'a blessé, j'ai rien.
Et c'est extraordinaire ce que dit Père Jean-Claude, c'est vraiment très très intéressant ce que tu as introduit. Parce que, en fait, ça c'est... Bon, c'est vrai que c'est une question très 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 sérieuse. C'est en fait le problème de la liberté profonde. Devant une situation comme ça, par exemple, on m'a pris ma vie, on m'a pris ma vie au sens très très général, où on veut me prendre ma vie, c'est vrai qu'il y a deux attitudes. Soit je vis cette frustration jusqu'à une souffrance terrible avec tous les problèmes pathologiques que ça entraîne, la maladie de l'âme que ça entraîne. Vous savez, des gens effectivement qui ont été blessés dans leur enfance, ils traînent ça. Moi, je connais des personnes qui, à un âge avancé, traînent toujours des souffrances qu'ils ont subies à l'âge de 8 ans, 10 ans, 12 ans, etc. Mais ça reste là, c'est des choses irréparables. Voilà, on traîne avec soi l'irréparable. Et on peut traîner l'irréparable avec soi toute sa vie, jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à sa mort, et avoir une vie gâchée parce qu'on nous l'a... On nous l'a volé. Il y a un roman qui porte ce nom-là. Donc on m'a volé ma vie, et toute ma vie, je vais vivre avec cette souffrance d'une vie volée. J'arrive à la fin de ma vie en ayant tout perdu, finalement. Et je pense que l'attitude qui nous est proposée par le Christ, c'est difficile à dire, hein, parce que peut-être que ça peut heurter des gens parmi vous. Je pense que l'attitude, c'est quand même l'attitude du oui. C'est-à-dire au lieu de subir une situation, si possible, la choisir. Et la choisir, dans ce cas-là, c'est assez effrayant, parce que choisir ce qui m'a imposé, c'est-à-dire dire oui au vol de ma vie, ça paraît un peu paradoxal. Et pourtant, c'est la seule solution de liberté, la seule solution de vie, la seule solution de salut. C'est transformer cette situation où je suis victime en une situation où je vais être roi, où je vais être souverain. Et tu me prends ma vie, et moi je te la donne, mon chéri. Tu me prends ceci, moi je te le donne. Mais je te le donne. Je te le donne. Prends-le encore. C'était l'histoire de Saint-Macaire. Il y avait des gars qui étaient entrés chez lui. Il n'avait pas grand-chose, Saint-Macaire, dans sa bicoque. Les gens rentrent chez lui avec un camion de déménagement. Il commence à déménager son monastère. Et alors, bon, il a été faire des courses, je ne sais pas où. Il rentre, il voit les gars en train de déménager, non pas avec un camion de déménagement, mais avec des chameaux, évidemment, dans le contexte de là. Et les types déménageaient. Il y a quand même pas mal de trucs. Ils avaient chargé le chameau, un chameau, deux chameaux. Et Macaire rentre à l'intérieur, il leur dit rien du tout. Saint Macaire, c'est un petit vieux, il avait 3 poils de barbe, comme ça, un petit vieux. Il n'avait pas beaucoup de barbe, parce que comme il mangeait jamais, et même les poils de sa barbe ne trouvaient pas d'énergie suffisante pour pousser, dit le vieux grave. C'est un drôle de petit bonhomme. Et il rentre dans sa cellule, les voleurs ne sont pas aperçus qu'il était entré, parce qu'il était comme une petite souris qui entrait. Il leur dit, oh, il y a encore ça, il y a encore ça, il y a encore ça. Il leur donne tout ce qu'il n'avait pas pris, il les aide à charger sur le chameau. Il leur dit, bon, salut les gars, à bientôt, bon. Mais bon, c'était facile pour lui, parce qu'on ne l'a pas tué, on ne l'a pas violé, on ne l'a pas fait des choses épouvantables qu'on fait à des enfants. Vous voyez, quand on lui a pris les quelques bricoles qu'il avait, c'était... Mais ce qui est intéressant, c'est l'attitude. C'est-à-dire, ce qu'on m'a pris, je le donne. Ou ce qu'on veut me prendre, je le donne. C'est pour ça que le Christ, très fort, divinement fort, dit, mais attendez les enfants, moi ma vie, on ne me la prend pas. Hein. C'est moi qui la donne. Vous ne me la prendrez pas, ma vie. Vous ne me la prendrez pas. Et donc c'est dans des cas très très concrets, peut-être des choses dont on ne peut pas parler publiquement, mais des situations très 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 dures où l'être humain effectivement se trouve dans la situation d'être dérobé de quelque chose. Et la seule liberté, c'est de donner ce qu'on nous dérobe. C'est-à-dire de dire oui au lieu de dire non, d'être dans le choix au lieu d'être dans le subissement. Je ne sais pas comment dire ça. Alors ça aussi, ça c'est une chose, je pense que c'est l'attitude de... fondamentale qui est enseignée par le Christ, c'est qu'on ne me prend pas la vie, moi je la donne. Et ce que tu m'as pris, je te le donne. Je te le donne, je te le donne. Dieu te bénisse. Et justement, Dieu te bénisse. La deuxième chose, c'est terrible de parler de ces choses-là, je vous demande pardon. Hein. Mais il y a deux choses. C'est premièrement le pardon de ceux qui nous ont pris la vie. Ceux qui nous enchaînent à nos voleurs, disons, ou à nos violeurs, ou à nos tortionnaires, ou à... Bon, à tous ceux, aux bourreaux de notre vie, parce que, vous savez, il y a quand même des vies qui sont bousillées hein, par les choses qui se sont passées dans l'adolescence, enfin, tout le monde sait ça, c'est pas la peine de faire des dessins. Et donc, dire à quelqu'un, écoute, la seule chose qui peut t'aider, c'est de prier pour cette personne, ton bourreau, ton violeur, ton voleur. Ah ben, je peux pas. Ben là, je comprends très bien, moi non plus, je pourrais pas, c'est pas... On se comprend très bien. Mais n'empêche qu'il n'y a pas autre chose. Bénir cette personne-là, prier pour cette personne-là, intercéder pour cette personne-là et adopter la prière du Christ sur la croix qui dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ou elle ne sait pas ou il ne sait pas ce qu'ils font. » C'est-à-dire l'intercession pour celui qui m'a mis sur la croix d'une manière ou d'une autre, l'intercession, et se mettre dans la position de l'intercesseur. L'intercesseur, c'est quand même quelque chose. Mais vous avez dit « On ne peut pas faire ça. » C'est impossible de faire ça. Personne ne peut faire ça. Qui va faire ça? Moi, je ne peux pas faire ça. Ne me demande pas ça. Je ne le ferai jamais, jamais, jamais. Essaye. Essaye parce que moi, je n'ai pas autre chose à te dire. C'est ça le problème. Je n'ai pas autre chose que l'évangile. Je n'ai pas autre chose que l'expérience des saints chrétiens. Essaye. Et la personne va essayer difficilement. C'est dur, vous savez. C'est impossible même quelquefois de prier pour quelqu'un qui a bousillé notre vie, comme on dit là. Oui. Surtout quand c'est vieux, parce que ça s'est entassé avec le temps. C'est même pas du ressentiment, c'est une blessure, c'est inexprimable. On n'arrive pas à prier pour cette personne-là, mais on va essayer. Il faut essayer. Et en essayant, ça vient. Et quand on n'arrive pas, on dit à Dieu... Donne-moi la grâce de prier pour cette personne. Donne-moi grâce de prier pour cette personne qui m'a blessé. Donne-moi la grâce de... Donne-moi toi la force de bénir cette personne-là, d'intercéder pour cette personne-là. On va demander à Dieu tout ce qu'on ne peut pas faire, justement. Il ne faut pas arrêter en disant « je ne peux pas ». Ça ne sert à rien, ça. Il faut dire « je ne peux pas », Mais tu demandes à ton prêtre, tu demandes, aide-moi, prie pour moi, je dois absolument arriver à prier pour cette personne qui m'a violé quand j'avais 12 ans, qui m'a fiché ma vie en l'air, je dois arriver à ça, toi père un tel, machin, attends. Prie pour moi que Dieu me donne la grâce de prier pour cette personne-là, parce que je sais que c'est la seule voie et je ne peux pas le faire. Et vous allez voir, avec l'aide des uns et des autres, avec le jeûne aussi des uns et des autres, avec la prière de la Mère de Dieu, la prière des saints, la supplication à Dieu, ça va venir. Il va m'être donné de prier pour ce violeur, pour cette violeuse, pour ce voleur, pour cette voleuse. Il va m'être donné de le faire, c'est-à-dire de connaître le miracle de la liberté. Un horizon absolument insoupçonné, insoupçonné. Et prier pour le pardon, prier pour le pardon. Et même plus loin que ça, bénir. C'est n'importe quoi, dire qu'on va bénir des gens qui nous ont fait ça. Mais c'est qui vous permet de dire des choses pareilles? Vous êtes fous, les chrétiens, de nous sortir des trucs pareils. Où est-ce que vous avez vu ça? Bah, dans l'évangile, monsieur, oui. C'est vrai que ça paraît... Vous savez, souvent on dit, voilà, le Christ dit, bénis ceux qui vous bénissez vos ennemis, machin. Bon, c'est sympa, on peut le dire comme ça. Mais quand tu sais de quoi tu parles, ce à quoi fait allusion Père Jean-Claude, par exemple, c'est énorme. Bénir l'ennemi, dans certains cas, c'est hallucinant, enfin, de oser même dire ça à quelqu'un, c'est vraiment pas possible. Pas possible. Et je crois qu'on peut dire ça, nous, surtout les prêtres, nous pouvons dire, nous pouvons essayer de transmettre de tendre cette main du Christ. C'est-à-dire, bénis ton persécuteur, bénis ton violeur, bénis ton voleur, bénis ton tortionnaire. On ne peut le faire que si c'est la main du Christ lui-même qui se tend. Ce n'est pas humain de faire ça, ça ne peut être que divin, vous voyez. Ça ne peut être que divin. Et la dernière chose, je pense, qui est très importante, c'est ça que Dieu nous montre. Quand on a donné ce qu'on voulait nous prendre, quand on a prié pour le pardon de notre voleur ou notre violeur, quand on a béni celui-ci, il reste encore une chose, c'est d'être extrêmement inquiet et soucieux et angoissé de son salut. Je pense que là, j'ai un peu honte de vous parler de ces choses-là, vous pensez que je suis un peu fou de dire ça, mais je ne vois pas autre chose. Les saints, vraiment... ont une grande angoisse pour le salut de leur bourreau. Qu'est-ce qui va devenir cet homme qui m'a torturé? Qu'est-ce qui va devenir cet homme qui m'a violé? Qu'est-ce qui va devenir cet homme qui m'a livré? Qu'est-ce qui va devenir? Il est tellement plus malheureux que moi. Vous voyez, et la compassion, mais écoutez bien ça, hein. La compassion du torturé pour le torturant, ça c'est vraiment le sommet de tout, vous voyez. Et ça arrive. La vie en Christ, la vie du Christ en nous, c'est cette vie-là, justement. Et c'est pour ça que c'est une vie royale, c'est une vie souveraine, c'est une vie prophétique, c'est une vie... qui peut proposer un tel horizon à l'être humain, oui. Mais ça paraît... À la fois, c'est impossible, mais comme disent les pères spirituels, l'impossible devient le chemin... Mais en même temps, c'est ça que propose le Christ quand même. Et si le Christ le propose, c'est que c'est faisable par la grâce du Saint-Esprit, par la prière des saints, par la puissance du Saint-Baptême qui est en nous, par la puissance du corps et du sang du Christ auquel nous communions, par l'énergie du Saint-Crème déposée en nous. Et moi je pense, c'est ce que nous disions hier, que nous avons tout pouvoir. Nous pouvons tout, nous les chrétiens. Tout pouvoir nous a été donné par le baptême, la chrismation, et nous a donné dans l'Eucharistie. Donc il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas dire que ce n'est pas possible, il ne faut pas trop le dire que ce n'est pas possible. Même les apôtres, quand ils ont dit au Christ, mais c'est impossible, machin, c'était avant la résurrection, c'était avant la Pentecôte. Il faut faire attention, il y a beaucoup de choses que les apôtres disent dans l'Évangile qui sont avant la résurrection et avant la Pentecôte. Donc il faut les mettre à leur place. Mais après la résurrection, après la Pentecôte, tout est possible. Tout est possible. Et il est possible, cette chose impossible, il est possible à un être détruit par la vie, détruit pas par la vie, mais par autrui, de bénir, de pardonner, d'intercéder et d'avoir mal pour son tortionnaire. Il est possible d'éprouver de la compassion pour son tortionnaire. C'est possible. Ben c'est possible, mais selon Dieu, charismatiquement, pneumatiquement, comme on disait. C'est vrai que Sans Dieu, sans l'Esprit Saint, sans le Christ, aucune solution, vous voyez. Aucune solution. Pardonnez-moi. C'est peut-être pas ça que tu voulais dire, Père.
Et quand la violence perdure vers... voilà, on ne peut pas dire oui à tout, tout le temps, et à tout le monde...
J'ai pas compris, pardon.
Quand la violence perdure, on ne peut pas non plus dire oui à tout, tout le temps, et ne jamais mettre de limite à rien.
Oui, oui. Bah, alors ça, c'est encore une autre question. je pense que quand on voit l'exemple des saints, il y a deux attitudes. C'est-à-dire, si une violence m'est faite à moi-même, je peux l'assumer. Si c'est mon appel, je peux l'assumer dans cette... J'ai une amie, par exemple, une personne qui se confiait à nous et dont le mari était alcoolique, mais d'une manière assez, parce qu'il y a des degrés dans l'alcoolisme, de manière assez effrayante, avec des conséquences gravissimes, gravissimes pour elle et pour la famille. Enfin, et elle, ce qu'elle subissait, elle l'acceptait et elle priait vraiment pour la conversion de cet homme, pour la guérison de cet homme, elle intercédait pour tout ce qui la concernait, elle. Mais dès que ça concernait quelqu'un d'autre, là, elle disait non. Oui, c'est un petit peu le problème de la guerre. Hein. La guerre est un péché. Il n'y a pas de guerre juste, il faut arrêter de dire des bêtises. Bon. Mais n'empêche que on s'interpose pour défendre les autres. Hein. Il y a un moment où les saints, comme le Christ lui-même, s'interposent. Donc la violence que je peux accepter pour moi-même, que je peux prendre sur moi-même en suivant le Christ, c'est une chose, ça. Pourquoi pas autant que possible, autant que je peux prier, autant que j'ai d'amour en moi, autant que en donnant ma vie pour ce bourreau, pourquoi pas. Mais si ça concerne quelqu'un d'autre, là je m'interpose. Je pense qu'on peut toujours dire oui pour soi-même, mais quand c'est pour autrui, on ne dit pas toujours oui, on commence à dire non. C'est pour ça qu'il y a quand même tellement d'exemples dans la vie des saints, de personnes qui sont interposées dans le domaine de la violence, dans le domaine social, dans le domaine médical. Il y a des gens qui ont préféré donner leur vie plutôt, ils disent non, tape sur moi mais pas sur elle. Et des gens, même des chrétiens, qui ont accepté de faire la guerre, par exemple pour défendre leur pays. Ils savaient très bien que la guerre est une chose abominable et injustifiable, mais ils ont quand même, tant pis, pris les armes, commis ce péché de porter les armes pour s'interposer. Hein, c'est le carré de l'interposition. Le Christ fait ça, il s'interpose. Donc à cette femme que les gens s'apprêtaient à lapider, le Christ est interposé. Lui, quand on l'a mis en croix, il a dit oui, les gars, bon, c'est mon heure, je l'ai choisi. Voici mes mains, mes pieds, allez-y, plantez vos clous, c'est bon. Mais quand il a vu qu'on allait lapider quelqu'un d'autre, là, il s'est interposé. Il a dit non. Non, 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 qu'est-ce qu'elle a fait cette femme? Qu'est-ce qu'il lui reproche? Allez, dites, qu'est-ce que vous lui reprochez? Donc, il a empêché qu'on la lapide. Je pense que la différence est là. Je ne sais pas.
C'est-à-dire que on est on en connaît tous, et puis. Parmi nous, certainement, il y a des personnes dans ce cas qui, à force de supporter, qui finissent par aller de plus en plus mal, s'étriquer, et puis qui finissent à l'hôpital psychiatrique, en dépression, ou etc. Donc quand ça finit par... c'est depuis la vie qui prend le pas,
oui.
Mais
alors
les hôpitaux, les symptômes...
Je comprends très bien ce que vous voulez dire. En fait, l'attitude chrétienne, il faut faire extrêmement attention, ce n'est absolument pas une attitude de subir passif. C'est un... Comment dire, le Christ n'a pas. Vous savez que le Christ a choisi le moment de monter sur la croix. Le Christ a échappé à ses roues quand ce n'était pas le moment. Il a géré lui-même d'une manière absolument souveraine. Le Christ n'a rien subi. Enfin, il y a des traductions qu'on entend quelquefois. Je sais pas, bon, c'est moi qui n'entends pas très bien, peut-être. Il me semble qu'on entend le mot subir. Et à mon avis, le Christ n'a rien subi. Le Christ n'a rien subi. Je dirais même que subir est un péché. C'est pas subir. Le Christ n'a rien subi, il a choisi. Il a choisi et il a intercédé. C'est-à-dire qu'il est dans une attitude active. Je pense que ce qui détruit une personne qui est, par exemple, l'objet de sévices réguliers, ce qui la détruit, ce ne sont pas les sévices eux-mêmes, si vous voulez. C'est son attitude passive où il y a des personnes qui sont extrêmement culpabilisées, par exemple, des attitudes intérieures qui sont inexactes et qui font qu'effectivement elle se détruit. Ou qu'elle se laisse détruire. Mais si une telle personne, imaginez une sainte personne, évidemment, c'est toujours pareil. Ça dépend de notre profondeur d'union au Christ. Mais quelqu'un qui serait très uni au Christ pourrait être en train de supporter, je ne veux pas employer le mot subir, de supporter des offenses, des autres, tout ça de telle personne, mais avec une telle force intérieure, un tel amour pour l'ennemi, une telle intercession pour l'ennemi, une telle riposte amoureuse, si je peux dire, à l'ennemi, qu'en fait elle serait victorieuse tous les jours. Et qu'à la longue, c'est pas elle qui serait détruite, ce serait son bourreau qui n'en pourrait plus. Mais donc ça, il faut quand même savoir qui va manger l'autre. C'est un petit peu ça la question, hein. Pardon.
Justement, au nom de aimez-vous les uns les autres, on peut résister à beaucoup de choses. Mais comment on peut comprendre que ce soit le mauvais qui gagne, quoi, malgré tout ce qu'on peut porter.
J'ai pas compris que c'est le mauvais qui.
Ben celui qui détruit qui gagne.
Oui, mais ça, c'est pas vrai, ça. Parce qu'en fait, dans la réalité, la victoire est du côté de l'amour. Mais dans aimez-vous les uns les autres, c'est aimez-vous. Il faudrait souligner, il faut mettre en fluo le mot aimer. Et pour croire que le mot aimer représente une énergie créatrice, une puissance miraculeuse, c'est pas n'importe quoi, ce mot-là, vous voyez. Et c'est vrai qu'il faut s'insurger contre les interprétations du christianisme. Assez sentimental, assez mièvre. Et je pense qu'il y a quand même des déformations dans notre enseignement. Peut-être que nous, les prêtres, nous avons à balayer devant notre porte. Et on enseigne le christianisme comme une espèce de morale des faibles, comme a dit Nietzsche. Et ce n'est pas vrai, le christianisme, c'est la morale des forts. Hein. Mais leur force, c'est dans l'amour qu'ils ont pour ceux qui ne les aiment pas. Vous voyez. Et donc ça doit vraiment pouvoir se vérifier dans les faits. Il y a un moment où l'ennemi se lasse, se fatigue et doit pouvoir être gagné par l'amour qu'il ressent. Est-ce que j'avais lu un livre à une époque, ça s'appelait Pardonne-moi Natacha. Peut-être que certains ont lu ça, personne. Moi. C'est l'histoire de la passion dont une communauté baptiste en Union soviétique à l'époque de M. Staline, je pense. Non, c'était pas l'époque. Parce que Staline, ça allait encore. Hein. Khrushchev a été terrible. Les années 60, moi j'ai appris ça récemment, moi je pensais que c'était vraiment Staline, le grand méchant loup, mais Khrushchev dans les années 60 a été vraiment un comportement effrayant. Et dans les années 60, il y a eu une recrudescence de persécution contre les chrétiens en Union soviétique, en Russie, et donc le livre dont je parle, qui s'appelle donc Pardonne-moi Natacha, raconte les persécutions exercées contre des groupes de baptistes, même pas des orthodoxes, des baptistes. Et là-dedans, donc, il y a effectivement une fille qui s'appelle, les personnages, ce sont des histoires vraies, hein. Une fille qui porte ce nom de Natacha, et c'est raconté au long de l'histoire. Alors donc, on apprend ce qui est fait à ces gens, c'est totalement assez épouvantable. Bon. Mais finalement, la fin du livre, c'est ça. C'est le bourreau qui retrouve les gens qu'il a torturés, mais vraiment... assez abominable, il les retrouve et il leur demande pardon. Il leur demande pardon parce que eux n'ont pas fléchi dans l'amour. Et là, on prend l'exemple de Baptiste, donc c'est même pas pour faire là aussi augmenter le prix des cotisations dans la paroisse orthodoxe. Les Baptistes, c'est des gens très sympathiques, très simples, prennent l'évangile à la lettre, c'est tout, quoi, vous voyez. C'est formidable. Et le bourreau qui dit pardonne-moi. Pardonne-moi, Natacha. Et j'ai lu aussi récemment, c'est arrivé très fréquemment, ce type d'histoire. Ah, il y a encore un roman qui est paru là-dessus récemment, une personne qui, des années après, reçoit un coup de téléphone, et au téléphone, elle reconnaît un nom étranger, pour nous en tout cas, et ce monsieur dit, voilà, peut-être madame une telle, je suis monsieur un tel, je voudrais bien vous revoir. Ou la fille dit, non, là, ce mec-là, c'est pas possible. Parce que hey, pour elle, ce nom-là, ça représente ce qu'elle a subi il y a 30 ans, 40 ans. Elle dit, bah, écoutez, je ne sais pas, je vais voir, je vous rappellerai. Bah, parce qu'en entendant le nom, elle revoit tout ça. Bon. Et en fait, elle trouve en Dieu, une personne croyante, elle prie Dieu, etc. Elle trouve en Dieu la force de rappeler ce gars. Il dit, ah, oui, bon, d'accord, tel jour, à telle heure. Hein. Et en fait, cet homme vient, il lui dit, parce qu'il dit, je voudrais vous voir parce que vous êtes chrétienne et il y a, quand on faisait tout le mal qu'on faisait, je me rappelle de comment vous étiez, je me rappelle de votre visage, je n'ai pas pu oublier le visage que vous aviez et je veux vous retrouver, je veux que vous me parliez, je ne peux pas rester comme ça. Vous voyez. Il y a un travail qui se fait très à la longue parce que là c'est sur 30 ans, c'est beaucoup. Hein.
Ce n'est pas tous les jours quand même.
Ce n'est pas tous les jours non plus. Mais lisez aussi, vous connaissez peut-être ça, les écrits concernant le père Arsène, il y a deux volumes, c'est illisible. Il y a des, Et les passages, tu ne lis pas jusqu'au bout. Hein. C'est vraiment dur. Hein. Je trouve que c'est... Waouh. Et non, mais c'est quand même c'est ce mystère-là. C'est-à-dire que l'amour est plus fort que la mort, que l'amour est plus fort que la haine. Et ça, c'est des belles paroles qu'on dit, ça, souvent, les chrétiens. Tu sais, les chrétiens, on est très, très forts. On a une super cassette. Où... Mais quand c'est là, c'est à vivre, et que ça peut être efficace, que ça peut être vérifié par l'expérience, c'est encore autre chose, oui. Et là, les écrits du Père Arsène, c'est vraiment, enfin, concernant le Père Arsène, c'est vraiment extraordinaire, parce que ce n'est pas autre chose que ça. Il y a le fait que, mais que l'amour n'est pas non plus un sentiment individuel, c'est la présence du Christ en nous, c'est un amour qui invoque la Mère de Dieu, qui invoque les saints, qui invoque, qui n'est pas tout seul, vous voyez, c'est un amour qui est dans la communion aussi, parce que c'est très très fort, le mystère de l'amour dans le christianisme, c'est quelque chose d'immense. C'est pas un l'amour n'est pas un sentiment. Il faut être d'accord là-dessus déjà. Hein. L'amour n'est pas un sentiment. L'amour, c'est une puissance, une énergie divine. C'est l'être même de Dieu qui se met en route, qui se met en mouvement, qui cherche l'expression, qui se mobilise. Voilà. C'est l'être même de Dieu qui se mobilise en faveur de quelqu'un, à travers quelqu'un. Et c'est une mobilisation de l'amour de Dieu en faveur de quelqu'un. Gardez ce mot-là, la mobilisation de l'amour de Dieu. C'est ça que vous pensez, oui. Et c'est tellement fort, c'est tellement fort. Et bien sûr, il faut croire à ça. Moi, je crois à ça. Et si tu ne crois pas à ça, tu ne le fais pas, évidemment. Et alors, mais subir, ça, c'est terrible. Nous, les chrétiens et les prêtres, nous ne voulons plus être ces prêtres qui ont dit, dans certaines civilisations chrétiennes, « Ma bonne dame, il faut supporter, vous êtes chrétienne, il faut tout supporter, il faut tout subir. » Ça, c'est terminé, ça. Nous l'avons trop fait, c'est notre grand péché, j'assume, c'est le grand péché d'une certaine catégorie de prêtres qui a amené les gens à ce contresens, aux femmes, les femmes en particulier, quand même, mettons les pieds dans le plat, tout supporter, tout subir, sous prétexte qu'on est chrétien. C'est erroné. Ben
justement,
subir est un péché, choisir est un charisme.
Hier, quand j'entendais, prends ta croix et suis-moi, et sois l'esclave. Et ça,
c'est
ça.
Oui, oui, oui.
Non, mais catholiques.
Je suis d'accord avec vous. Mais c'est pour ça que, avec le temps que nous avions hier, nous essayons d'interpréter tous ces mots-là. Esclave, on a dit pourquoi. On a dit que c'est un esclavage libre. Et prendre sa croix, on a dit ce que c'était. C'est la liberté que Dieu te donne, etc. Vous voyez, faire attention. Je pense que les contresens dans le domaine du christianisme sont gravissimes et sont fort nombreux. Méfiez-vous, il faut se méfier des contrefaçons, des sous-produits, ça peut-être, on va laisser.
Justement, je trouve souvent l'Église un peu nerveuse quand il s'agit de cette transition qui nous aide à passer du subissement à la liberté, en fait. En gros, de passer du syndrome de Stockholm, pathologique, à l'amour du bourreau libre. Il y a une transition à opérer qui est indispensable quand on a subi des choses, enfant par exemple, et qu'on est habitué à subir. Et cette transition, je trouve que l'Église est souvent un peu légère, qu'elle n'accompagne pas les gens à la franchir. On dit, c'est, voilà, attention, pas de confusion, il ne faut pas subir, il faut être libre. Ouais, d'accord, mais comment? Et est-ce que ce n'est pas l'endroit où l'Église peut aussi faire sa place, par exemple, à une démarche thérapeutique? Voilà, moi je trouve que
c'est très intéressant ce qui est dit là, c'est qu'effectivement on est d'accord sur ça et sur ça, mais comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre? Et entre les deux, comment est-ce qu'on va survivre entre les deux? C'est l'histoire du Bernard l'Ermite. Tout le monde sait ce que c'est un Bernard l'Ermite. Alors la caractéristique de Bernard l'Ermite, c'est qu'il grossit, et la coquille dans laquelle il était devient trop petite. Donc il doit sortir de la coquille avant d'être trop gros et coincé, et chercher une autre coquille d'un autre escargot qui pourrait lui convenir. Et entre les deux, eh bien, il est tout nu comme un malheureux, et c'est à ce moment-là qu'il se fait bouffer par des animaux sympathiques, le poisson du coin, etc. Donc c'est vrai, cette phase-là est une phase d'extrême fragilité. Et là, effectivement, soit c'est... Effectivement, je toujours mes exemples idiots. Mais...
Non, c'est très clair.
Il faut se reposer un peu.
C'est pas idiot, c'est clair.
Donc effectivement, la question de l'accompagnement... C'est vraiment très très important. Et alors moi, je ne sais pas mon cas, parce que je ne suis vraiment pas un exemple dans ce domaine-là, mais c'est vrai qu'il y a quand même des prêtres qui sont capables de faire ce qu'ils disent. Je ne sais absolument pas mon exemple, parce que je me débrouille pour en dire un maximum et en faire le minimum. Jusqu'à présent, j'ai fonctionné comme ça. Bon, hein, Il faut tout, il y a de la place pour tout le monde dans l'église. Bon. Mais non, je connais des prêtres qui font ce qu'ils disent. C'est-à-dire qu'ils disent, par exemple, disent à une personne, enfin, ce qu'on vient de dire là, c'est-à-dire, essaie de choisir ce que tu subis, pour résumer, essaie de bénir ton tortionnaire, essaie d'intercéder pour ton violeur, essaie de prier pour ton mari ou ton conjoint alcoolique, etc., etc. Il y a le prêtre qui le fait. C'est-à-dire qu'il va s'engager, Saint Isaac, le Syrien, parle de ça d'ailleurs, qui va s'engager à jeûner avec la personne, à prier pour la personne, à lui téléphoner tous les jours, ou à être là tous les jours, pas forcément en disant plus, mais à vivre avec elle ce qu'il lui a proposé de vivre, ce que le Christ lui a proposé de vivre. C'est-à-dire considérant que ce que le Christ a proposé, il a proposé pas seulement à elle, mais à eux deux. Que ce que vit cette femme, c'est son problème à lui. Que le péché de ce bourreau, c'est le sien à lui. Que ce violeur, ben, évidemment, c'est lui. Et après tout, l'occasion nous a manqué, mais il ne faut pas non plus faire les petits saints. Je veux dire, tout homme aurait pu, si l'occasion s'était présentée, être un bon criminel ou un mauvais criminel comme un autre. Il faut arrêter de dire oh, moi, jamais, j'aurais jamais fait ça. Bon, l'occasion m'a manqué, c'est ce que je veux dire. Donc, je pense que le prêtre qui intercède est celui qui vraiment se fond dans ce que vit la personne. Mais ça veut dire des prêtres qui soient très, très disponibles, qui soient vraiment à plein temps, souvent peut-être des moines, des gens qui sont... ça demande un gros, gros investissement quand même. Les jeûner avec la personne. Et ça, à ce moment-là, et donc effectivement... l'accompagner, c'est-à-dire être disponible pour un questionnement, pour une mise au point, pour une précision, pour une vérification ou un changement d'orientation, changement dans la prière. On a commencé à prier comme ça. Ah, je la sens pas trop cette prière-là, ça marche pas. Bon, on va changer, trouver une prière plus adaptée. Tu avais essayé la prière comme ça, essaye un peu la prière de louange. Non, la prière de louange, ça marche pas. Essaye de prier la Mère de Dieu. Ah, mais ça c'est bon, on va continuer avec la prière de la Mère de Dieu. Oui, cette adaptation, déjà de la médication spirituelle à la personne qui est dans une situation de survie, mais de vie, de découverte de ce qui est l'essentiel pour elle. Ça, je pense. Et ça, c'est vrai que nous ne pouvons pas toujours. Alors effectivement, il y a peut-être des médecins de l'âme qui seraient mieux disposés, mais à condition qu'ils soient, qu'ils coopèrent aussi avec l'enseignement du Christ sur ce sujet-là. Vous voyez, c'est pas toujours facile de trouver. Moi, j'ai un ami qui était, voilà, il se présentait comme psychologue chrétien, mais bon, en fait, c'était une bonne étiquette sur sa porte, ça faisait bien, mais c'était pas vrai, en fait. C'est pas vrai, c'est-à-dire que l'essence de sa thérapeutique n'était absolument pas inspirée de l'évangile et du côté radical de l'évangile. L'amour des ennemis, par exemple, c'est énorme, ça. Il n'y a pas beaucoup de psychologues, si vous voulez, qui soient capables de mettre ça en avant. Essaye d'aimer ton ennemi. Moi, psychologiquement, je ne sais pas si on le dit, ça, vous voyez. Moi, je veux bien, si on trouve vraiment un psychothérapeute qui parle le langage évangélique. Ça existe peut-être, je sais pas tout. Hein. Mais je serais beaucoup pour revaloriser notre formation à nous, les prêtres, que nous arrivions, nous, à nous former davantage spirituellement, davantage des points de vue esthétiques, à être davantage dans les monastères, à prendre davantage le temps de la prière, à déléguer maximum en paroisse des responsabilités qui ne sont pas forcément les nôtres, qui peuvent être assumées par les conseillers paroissiaux, par les fidèles actifs, et de plus en plus des hommes de prière et de prière seule, d'intercession seule, de conseil spirituel seul, de nous spécialiser dans ce qui est vraiment notre ministère. De plus en plus, ça c'est vrai, parce qu'il y a des cas où il y a beaucoup de cas, et de plus en plus à notre époque, où c'est ça, quoi. C'est pas le tout. Hein. Moi, c'est vrai que j'ai une certaine facilité à expliquer les choses, mais c'est pas le tout de promettre. Il faut tenir aussi. Hein. Donc moi, je suis là pour promettre, mais est-ce que je peux tenir? Parce que je sais que ce que je promets est vrai. Mais est-ce que je peux tenir? Est-ce que je peux vraiment l'accompagner? Est-ce que je peux vraiment l'assumer? Est-ce que je peux vraiment aider la personne jusqu'au bout? Pas seulement, on se reverra dans un an. Mais non, pas dans un an, c'est demain. Parce que des situations comme celles auxquelles on fait allusion, c'est du jour après jour, c'est du quotidien, c'est... La conscience se modifie tout le temps. Ça dépend du temps liturgique, ça dépend des rencontres, ça dépend de la communauté dans laquelle on vit. Je pense que quand le Christ disait ça, le Christ, quand il enseignait comme quelqu'un qui va monter sur la croix. ça qui était, c'est ça la force de l'enseignement du Christ. Il n'a pas enseigné en disant, écoutez les enfants, je vous dis un truc, maintenant si ça ne venait pas, je pars en vacances et je reviendrai dans 3 mois. Voilà, oui. Non, le Christ, tout ce qu'il a enseigné, même ce qu'il a dit de très dur, quand il a parlé très durement aux pharisiens ou des gens comme ça, il leur parlait comme à des gens pour lesquels il allait monter sur la croix dans très peu de temps. Et les gens à qui il a donné des conseils, par exemple ça, celui qui ne perd pas sa vie, il ne la trouvera pas, enfin, tout ce topo-là, il l'a dit comme quelqu'un qui allait le faire dans très très peu de temps, dans 3 jours, 4 jours, 5 jours, ou une semaine, je ne sais pas, vous voyez. Donc il était celui, il enseignait ce qu'il se disposait à faire et de faire de manière absolument exemplaire et absolument puissante. C'est pour ça que sa parole est très très forte.
Merci.
On s'arrête peut-être maintenant, non ?
Je crois que non.
Hein. Ah, non, une question. Je me suis demandé comment les jeunes de nos familles entendaient ça. Je me suis demandé à la lecture de porter sa croix, le sacrifice de soi, etc. Parce que les enfants, naturellement, se sacrifient pour leurs parents, par loyauté, par amour. Et ils portent souvent des choses qui ne leur appartiennent pas. Et
ils n'ont pas choisi.
Ils n'ont pas choisi. Mais du coup, eux, ils sont l'exemple vivant de ce que c'est que... supporter les défaillances d'une famille ou de parents, etc., alors que ce n'est pas juste. Mmh. Et on les voit tomber malades, on les voit déprimés, etc., et porter des symptômes qui ne... Tout ça par sacrifice, en fait. Mmh. Quoi dire à nos jeunes ? Moi, mes enfants, j'ai des adolescents qui ont eu aussi leurs difficultés, etc., mais des fois, on a envie de leur dire, mais... ne vous sacrifiez pas pour vos parents.
Oui, je pense que ça les aurait davantage si on leur donnait le sens juste du sacrifice qu'ils sont en train d'assumer. C'est un petit peu dommage de les frustrer d'une démarche qu'ils ont commencée, qui est belle en elle-même et qui ouvre à la vie. On leur rendrait plus service en disant, je vois comment tu es avec telle ou telle personne, tu sais, c'est assez génial, tu ne te rends peut-être pas compte, parce que tu vis là, c'est exactement le mystère du Christ. Regarde l'évangile, regarde les saints, et de l'aider à s'étoffer, à prendre toute sa force pour le vivre vraiment chrétiennement. Parce que c'est très suspect. Par exemple, il y a un roman de Victor Hugo, je dis toujours les écrivains, dans Les Misérables de Victor Hugo, il y a un personnage qui est le personnage de Cosette. Et bien ceci est absolument épouvantable, parce que Cosette, c'est vraiment la gamine qui est exploitée, c'est l'enfant exploité par les adultes, bon, mais qui est complice de cette exploitation, qui ne se plaint pas, qui supporte, etc. Mais je vous assure que ceci n'est pas chrétien. Le christianisme ne justifie pas l'exploitation des faibles par l'effort, quand même, vous voyez. Pas ça le christianisme, c'est pas ça l'évangile. Celui qui éventuellement porte le sceau des autres, c'est quelqu'un qui librement et souverainement entre dans cette démarche-là. Donc c'est pour ça que vous disiez à l'instant, pas Magdalena,
Mélanie,
qu'ils n'ont pas, qu'il faut qu'ils le choisissent. C'est la question du choix. S'ils le choisissent, c'est autre chose. Ça va être un acte de liberté, ça va être un acte de grandissement, mais s'ils le subissent, ça va les écraser. C'est vraiment ça la question. Ce que je subis m'écrase, ce que je choisis m'élève ou peut m'élever. Est-ce qu'ils le choisissent ? Alors, soit vous les aidez à le choisir et à le choisir avec la puissance du Christ, la prière, tout ce qu'on peut avoir autour de ça, soit effectivement, on leur dit, mais attends, tu c'est pas sain, c'est malsain ce que tu vis là. Ça peut être malsain, et ça peut être une voie de sanctification. C'est pas automatique. Hein. Moi, je me méfie beaucoup. Ça, je disais, méfions-nous des contrefaçons du christianisme, parce que quand même, historiquement, enfin, je connais pas tout, hein, mais en Europe occidentale, en France, par exemple, il y a quand même eu des interprétations du christianisme qui sont absolument perverses. Enfin, tout de même, on a justifié les états d'oppression d'une partie de la population au nom de l'évangile, mais comme si le Christ avait dit une chose pareille. C'est hallucinant, quand même. Non, en même temps, c'est vrai que la subversion chrétienne, elle n'est pas une subversion dans le domaine des pouvoirs extérieurs, c'est une subversion intérieure. La vraie subversion, c'est le fait que par amour, je vais me vendre à cette personne. Il y a dans les écrits des Pères du désert une histoire très intéressante. C'est-à-dire un homme dont le charisme était un charisme missionnaire. Et ce charisme missionnaire consistait en ceci. C'est à l'époque où l'esclavage existait encore dans la société antique. Il allait chez les gens et il se vendait. Il dit, voilà, je sais travailler, je me vends à vous comme esclave. Et donc, il se livrait comme esclave à ces gens-là. Les gens étaient tout contents, ils avaient un esclave, ils le payaient très cher, ils le respectaient bien parce qu'il l'avait payé cher. Bon, et puis, ben, il faisait tout dans la maison, la vaisselle, le ménage, tout ce qu'on... changer l'eau des fleurs. Changer l'eau des fleurs, en fait, ce qu'on disait hier, parce qu'on a beaucoup parlé de ça hier. Bon. Donc, un bon esclave. Et puis, au bout d'un certain temps, comme c'était un esclave chrétien, qu'est-ce qu'il faisait de journée? Il ne se contentait pas de passer l'aspirateur, à l'époque où il n'y en avait pas, d'ailleurs, mais il priait pour ses propriétaires. Il était ses propriétaires, en fait, qui étaient athées, païens, rien du tout, quoi. Il priait pour eux, il priait pour eux, il disait, Dieu, convertis-les, convertis-les, convertis-les. C'est-à-dire qu'il était esclave dans cette maison, pas pour le Christ, pour le salut de ces personnes-là. Et au bout de 10 ans, très long 10 ans, au bout de 10 ans, les propriétaires ont connu le Christ, ont vu comment il vivait, ils lui ont dit, écoute, grâce à toi, on a connu le Christ et l'Évangile, nous aussi on veut être chrétiens, nous aussi on veut être baptisés. Il leur a dit, bon, si vous voulez, c'est vous qui voyez, c'est entre Dieu et vous, moi je ne m'occupe pas, je suis votre esclave. Il a continué à être esclave chez eux, ils sont devenus chrétiens et tout. Quelques années après, ils ont dit, écoute, un petit peu comment il s'appelait, quand même, nous on est chrétiens, toi tu es chrétien, tu es esclave, nous on est, on peut pas avoir un esclave. Allez, on te rend ta liberté. Il dit, non, je suis votre esclave. Alors il dit, bon, on te rachète, on te donne de l'argent, on te rachète, comme ça tu es libre. Alors, bon, si vous voulez insister après. Et il dit, mais non, maintenant reste chez nous parce qu'on a besoin de toi. Il dit, non, je dois repartir. Il est parti et il s'est vendu à d'autres. C'est extraordinaire. Et toute la vie de cet homme, c'était ça. Il se vendait 10 ans par-ci, 10 ans par-là, 10 ans par-là. Et donc, il aliénait toute liberté civile, etc. Il appartenait vraiment à des gens. Et par sa prière, son exemple, son amour, il les convertissait. Je trouve ça assez génial, vous voyez. Mais c'est ça, qu'est-ce que c'est? La mentalité chrétienne, c'est très, très, très spécial. Hein. Très, très, très spécial. C'est se faire tout petit pour pénétrer la condition humaine de l'intérieur et la subvertir, je ne sais pas si ça se dit en français, la subvertir de l'intérieur par l'amour, par la puissance de la prière. Donc, ce n'est pas subir, vous voyez. Ce n'est pas subir, c'est convertir. Ce n'est pas subir, c'est choisir pour la vie. Il faut remettre les choses à leur place. Mais c'est subversif, mais bien sûr. Bien sûr. C'est l'esclave qui devient roi. Vous voyez.
Juste pour illustrer ça, je vais vous raconter une toute petite histoire. Oui, oui. J'ai connu deux cousines qui étaient toutes les deux mariées. Je les entendais parler de leurs maris respectifs qui étaient des bonhommes assez durs avec elles. Hein. Et quand elles parlaient, elles disaient la même chose de leur mari respectif, c'est-à-dire qu'ils se comportaient de la même manière avec elles. Et c'était des comportements vraiment difficiles. Et il y en a une que ça a écrasé complètement, qui était en dépression, ça n'allait pas du tout. Et l'autre, pour les mêmes faits, elle était heureuse, elle était joyeuse. Et là, il y avait une différence flagrante de l'une qui subissait par un lien pathologique en fait à la maltraitance, et l'autre qui avait choisi librement de rester dans ce mariage, de continuer et d'aimer librement ce mari qui était qui se comportait très très mal. Et ces deux femmes du même âge et de la même famille, c'était étonnant de voir deux résultats si différents pour une situation aussi semblable.
Voilà. Et est-ce que celle qui est restée, est-ce qu'elle l'a changé? Est-ce qu'elle a obtenu son changement?
Jusqu'à présent, non.
Non.
Elle est là.
C'est vrai que des fois c'est très très long, on se lasse, ça dure toute la vie. Mais il y a quand même beaucoup d'exemples. C'est un exemple assez courant, disons, où aussi on voit le changement. Je me rappelle, c'était Père Lev Gillet. Vous avez entendu parler de ce prêtre-là. Père Lev Gillet est un des premiers prêtres français orthodoxes que nous avons connus. Dans les années 70, il était un très vieux monsieur déjà, et il était français d'origine. Enfin bon, et il avait, il voyait des gens de tous les milieux. Enfin, c'était à Saint-Irénée, justement à Paris, il avait fait une fois un exposé sur la prière de louange. Et alors la prière de louange, moi ça ne m'intéressait pas tellement, à l'époque je trouvais ça nul la prière de louange, vraiment oh, c'est bon pour les protestants, etc. Enfin j'avais un préjugé très négatif à l'égard de la prière de louange. Et Père Lev Gillet, Père Lev nous avait parlé de la prière de louange longuement, une soirée entière, il ne m'avait pas convaincu, mais tout ce qu'il a dit m'est resté, il m'a servi à peu près 25 ans après. Donc, il faut être patient avec l'être humain. Et il avait dit une chose, il avait raconté une chose extraordinaire. Il parlait de la prière de louange, il parlait d'une fille en Angleterre, parce qu'il habitait Londres à cette époque-là, une fille dont le père était alcoolique, avec bon, toutes les conséquences que ça a. Enfin bon. Et alors, donc le père Lev disait, mais il avait parlé avec cette fille-là, il dit, mais je ne sais pas comment que tu fais en tant que chrétienne, est-ce que. tu te révoltes, que ceci et cela. Et la fille avait dit non, non, je rends grâce à Dieu. Ah, ah, ça paraissait bizarre. Et donc, en fait, le père Lève nous avait raconté que cette fille, en fait, elle glorifiait Dieu pour son père alcoolique. C'est très, très, très suspect à entendre comme ça. Ça paraît bizarre. Hein. Qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire? Il faut savoir qu'après des années, son père s'est converti et a vraiment changé complètement. Mais c'est une attitude extraordinaire, en fait. C'est-à-dire que cette manière de glorifier Dieu, non pas que le fait que son père soit alcoolique soit en soi un bien, évidemment, mais c'est-à-dire de confesser activement la présence du Christ dans la situation. Et de confesser activement le fait que le Christ veut sauver cette personne qui fait du mal. D'exprimer activement le désir de bien, vouloir du bien à une personne qui nous fait du mal. Et confesser activement aussi le fait que cette situation, en tout cas, n'est pas étrangère, que Dieu n'est pas absent de cette situation, que Dieu veut le salut de cette personne, etc. Et donc la prière de louange, ce n'est pas de la magie, si vous voulez. Il y a quelque chose dans le fait de glorifier Dieu dans l'épreuve qui est absolument, absolument paradoxal et absolument fantastique, auquel on ne pense pas. Parce que nous, dans l'épreuve, nous pensons à supplier Dieu. Épargne-moi, aie pitié de moi, abrège cette épreuve qui est insupportable. Bien sûr, c'est normal. Mais penser à glorifier Dieu dans l'épreuve, c'est une chose que ne pensons pas à faire, qui nous paraît absolument contradictoire. Et pourtant, c'est une voie. C'est le oui absolu et l'acte de foi absolu dans la présence active de Dieu dans une épreuve qui pourrait nous écraser si nous la prenions autrement. Vous voyez, être chrétien, c'est très, très, très paradoxal. Hein. Très, très paradoxal. C'est complètement, de l'extérieur de la foi, c'est complètement incompréhensible. Et c'est pour ça que ça a été aussi, que ça peut être très mal interprété, il faut faire attention. Par exemple, vous avez des cas psychologiquement d'enfants qui essaient d'être maltraités parce qu'ils sont dans une telle culpabilité qu'ils pensent que si leurs parents les maltraitent, c'est les parents qui ont raison. Vous voyez, c'est très fréquent en psychologie, ça. Mais ça ce n'est pas du tout hein, une situation chrétienne. Il faut arriver à transformer, à subvertir cette situation-là. Quand on bénit Dieu dans des situations de persécution, ce n'est pas pour justifier le tortionnaire. Ce n'est pas ça du tout. Hein, c'est parce que l'amour est plus fort. Et que nous croyons que l'amour est plus fort. Le Christ l'a montré sur la croix.
Il n'y a plus de temps, là.
Pardonnez-moi. Hein.
Il n'y a plus de temps. Non.
Non. Bon, c'est, là, on, bon, pardon, parce qu'on parle de choses qui sont vraiment limite de notre compétence. C'est très, très, très difficile. Hein.
C'est juste pour savoir la contradiction qu'il y a entre respecter votre père... le père et la mère,
ah oui.
Le commandement du Christ, et oui. De dire, si vous ne haïssez pas votre père et votre mère, vous n'êtes pas avec moi. Alors, là,
oui, c'est drôle. C'est pas d'une page humoristique de la Bible, ça. Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre. D'un côté, honore ton père et ta mère, et d'autre part, assassine-les. Moi, je ne sais pas, hein, qu'est-ce que nous dit le Christ. Mais en fait, je pense que, d'abord, pour rester sur le registre de l'humour, nous honorons les morts. Nous honorons les morts. Donc, il n'y a pas de contradiction. Entre le fait de considérer ses parents comme morts et de les honorer, puisqu'on honore les morts, donc tout va bien. Nous avons surmonté le premier niveau de contradiction. Mais je pense qu'il y a aussi une autre chose, c'est que le Christ nous propose de haïr en nos parents leur caractère de parents. Ça, je crois que c'est vrai, au sens où nos seuls pères, c'est le Père Céleste. Et que nos parents, je me demande pardon, il y a des excellents parents, je vois des parents qui sont en train de nourrir leurs enfants de manière absolument attendrissante. Je ne voudrais pas vous casser votre maison. Hein. Non. Donc on continue quand même. Hein. Mais c'est quand même pour un temps. Et il y a un moment où l'enfant, l'adolescent, c'est l'exemple que le Christ nous donne dans l'évangile à 12 ans, où l'enfant donc accède à l'autonomie. Et il découvre que sa vraie paternité, c'est la paternité céleste. C'est quand même très, 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 très important, ça. Et je trouve que ça débouche dans la pratique sur quelque chose qui est très intéressant, c'est le fait de considérer ses parents comme des frères et sœurs. Et oser, dans la prière, nommer ses parents « mon frère un tel, ma sœur une telle ». On n'arrive pas à le faire, on se sent tout rouge quand on dit cette prière-là au début, on a honte, ça paraît ridicule de dire aie pitié de ta servante Brigitte, alors que cette Brigitte est ma mère, par exemple. J'ai honte de dire une prière comme ça au début, ça me paraît énorme. Et c'est intéressant parce que ça veut dire que je suis en train de passer, de franchir une métamorphose complète de la relation. Et en fait, c'est Brigitte, je prends le nom de Brigitte comme une autre. Ma mère s'appelait pas Brigitte, elle s'appelait. Comment que s'appelait ma mère déjà? Bon, et cette Brigitte devient ma sœur. Je la trouve comme sœur en Christ. Et je suis libéré du fait qu'elle ait pu être ma mère jusqu'à présent. Et qu'elle m'a apporté tout ce qu'elle avait à m'apporter. Mais dans le fond, ceci doit cesser. Donc, je la considère comme morte du point de vue de son caractère de mère à mon égard. Et je la découvre comme vivante en tant que sœur en Christ. Et c'est vrai que ça a une profondeur. Cette démarche-là, mais ça veut dire de nommer les gens, il faut être courageux quand même. Ça a une profondeur spirituelle, mais ça a aussi une profondeur psychologique très importante, parce que les mots, le langage touche à des zones à la limite du conscient et de l'inconscient chez nous. Le langage est énorme. Après, il y a le mot frère pour quelqu'un qui est ma mère ou mon père ou ma mère selon la chair, c'est une révolution dans la conscience. Et donc, je pense que ça correspond à ça. Et alors, de manière plus générale, c'est vrai que ça veut dire que je vais me suivre. C'est l'autonomie. Il peut y avoir des cas où il y a des contradictions. Ce n'est pas le cas de la société juive, par exemple, où les parents enseignaient la loi de Dieu. Donc, il n'y a pas de contradiction entre l'enseignement des parents et l'enseignement de la loi, par exemple. Ce n'est pas le cas non plus dans nos familles chrétiennes, comme nous en avons des exemples sous les yeux. Les parents enseignent que l'enseigne l'Église, donc il n'y a pas de contradiction. Mais il y a des cas où il peut y avoir une contradiction. Où effectivement, ce qui est enseigné par les parents est incompatible avec l'enseignement de l'Église. Il y a des exemples de saints chrétiens qu'on voit dans le synaxaire qui ont été obligés de fuir le parent, de se déguiser, etc., pour pouvoir vivre selon l'Évangile. Et c'était qui était une loi absolument incompatible avec la mentalité du milieu familial. Tout de même, assez souvent, moi c'est ce que j'ai vécu personnellement, assez souvent, la loi de l'Évangile n'est pas compatible avec la philosophie du milieu social auquel on appartient. Parlons de soi, moi j'appartiens à un milieu où des gens très, très antisémites, très, très méprisants, très durs, etc. Mais, et souvent, j'étais gamin, je me disais, c'est pas possible, ça ne peut pas être ça le christianisme. Franchement, je me disais, c'est pas possible. Vous voyez. Donc il y a un moment où ça paraissait naturel de dire, ils sont comme ils sont, on ne les juge pas, ils sont très gentils, ce sont mes parents, je les honore, etc. Mais ça ne va pas être mes parents spirituels, c'est-à-dire que je ne vais pas suivre cette loi-là. Moi, j'ai envie d'être chrétien, zut. Et donc je quitte mes parents, je déteste mes parents, je hais mes parents, je fusille mes parents, je ne sais pas comment. Tout en... Mais je crois que c'est ce problème de l'autonomie quand même. Et en tout cas, ça passe, à mon avis, par le langage, du point de vue spirituel, parce que autrement, ce sont les attitudes extérieures. Et ça ne veut pas dire être en conflit. Je pense que les histoires de conflit, c'est tout à fait nuisible. Le Christ n'a pas enseigné le conflit. C'est une différence importante avec certaines théories psychologiques qui valorisent le conflit, l'affrontement. Je pense que ça, ce n'est pas chrétien du tout. Le Christ n'a pas été en conflit. Le Christ est monté sur la croix. C'est tout à fait autre chose. Et donc, c'est un changement, une subversion intérieure, par exemple dans le langage, qui modifie et qui transfigure le monde. Pas le conflit. Et à partir du moment où moi je vois, il y a beaucoup d'enfants qui viennent se confesser, qui souffrent des attitudes de leurs parents. Et donc si on peut les aider à considérer ces parents-là, je pense à une petite jeune fille qui est très maltraitée dans une situation de parents séparés. C'est vrai que c'est pas très bon comme situation. Et cette jeune fille, elle ne sait pas très bien quoi faire de la situation et de l'attitude de son père. Est-ce qu'elle pourrait le détester, elle pourrait le haïr, elle pourrait ne plus jamais le voir, en fait, être obligée de le voir légalement parce que le juge a décidé que. Enfin bon, c'est une situation assez banale. Et le fait qu'elle puisse apprendre, grâce à la foi chrétienne, à considérer son père comme un homme beaucoup plus malheureux qu'elle-même, un homme souffrant, comme. Un frère, le considérer comme un frère souffrant, ça l'a beaucoup, beaucoup, beaucoup libéré. Ça l'a beaucoup libéré. On a vu cette jeune fille changer complètement à partir du moment où elle pouvait prier pour son père comme pour un frère souffrant et pas comme un papa méchant. Et c'était très, très, très différent. Mais ça, il fallait, on revient à la question de l'accompagnement, il faut quand même qu'il y ait des personnes dans notre église qui soient là pour ça, pour fournir tout de même un peu le mode d'emploi, le moment venu, la méthode. Il y a quand même une méthode. Et être là pour suivre aussi la méthode, oui. Et bien en sachant aussi que chaque cas est personnel et que ce qu'on dit comme ça un jour comme aujourd'hui de manière très générale, ben, c'est à réviser complètement quand on va voir telle personne, ce sera encore autre chose. Il faudra bien que l'Esprit Saint nous donne des idées à ce moment-là. Mais les idées que nous donnera l'Esprit Saint, ça sera toujours en cohérence avec la parole évangélique. L'Esprit Saint ne peut pas nous inspirer quelque chose qui soit en contradiction avec l'Évangile. Ça, c'est impossible. C'est stupide. Puisque c'est au contraire la cohérence de l'inspiration du Saint-Esprit avec l'Évangile qui vérifie l'identité du Saint-Esprit lui-même. Mais enfin, si vous voulez, l'Évangile est très 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 dense et l'Esprit Saint peut nous inspirer des prolongements, des implications, des sous-entendus, des interprétations, des lectures de l'Évangile auxquelles nous n'avons pas pensé jusque-là et qui peut bien nous aider dans une situation nouvelle.
Peut-être est-ce que c'est lié aussi à la force de la personne. Par exemple, dans la prière, on dit quand la pensée vient, si tu es faible, prends tes clics, tes claques, ton chapelet et cours, fuis. Oui. Alors que certains peuvent affronter la pensée, peuvent affronter la situation. Dans certaines situations, est-ce qu'il n'y a pas une graduation qui est liée à la force?
C'est pour ça qu'on vraiment voir chaque situation. L'hyperspirituel, quand on en a, c'est vrai qu'il y a des bénédictions très très différentes. Dans une même situation, à l'un il va dire prends tes affaires et fuis, à un autre il va dire garde tes affaires et reste. Alors on va dire mais alors c'est pas possible, vous êtes en contradiction. Ah non, mais ce sont deux personnes différentes, deux situations différentes, des fois peut-être plus ou moins des forces spirituelles différentes, une évolution. Peut-être que cette personne qui est obligée, à qui on va dire de fuir aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans, va revenir et va assumer la situation qu'elle ne pouvait pas assumer, parce qu'entre-temps, elle aura fait du chemin du point de vue de la foi.
Donc, le père spirituel, c'est très important.
Comment ?
Il faut qu'il soit au niveau de par rapport à son paroisse.
Oui, voilà. Comme disait Père Jean-Claude hier, le Christ s'est vraiment mis au niveau exact de la personne. Et il n'est pas venu avec des théories générales très toutes faites. Il est entré dans... Il faut se mettre, voilà, au... faire de la taille, voilà, à la pointure, parce que niveau, ça implique un jugement un peu, à la pointure, je dirais, à la pointure de chaque situation, à la pointure de chaque personne. On dit, il faut jeûner, par exemple. Les personnes qui, un ami, par exemple, qui vit des choses très, très, très difficiles, eh ben, nous, on ne peut pas, justement, c'est un garçon, on ne peut pas lui dire de jeûner, parce que son état est déjà tellement délabré qu'il ne peut pas, Ah, bon, donc, ben, ça, le précepte du jeûne, en l'occurrence, ne lui convient pas, il faut trouver autre chose. Mais il y a ça dans l'Évangile, parce que l'Évangile, il y a des choses très, très amusantes. Le gars, justement, qui se fait virer par le gérant, il dit, bah, jeûner, je peux pas, prier, je peux pas, bon, bah, travailler, je peux pas, rien du tout. Donc, aucun des actes spirituels ascétiques auxquels on est habitué, faire des méthanies, etc., il peut pas parce qu'il a mal au dos, jeûner, il peut pas parce qu'il a mal au ventre, prier, il peut pas parce qu'il n'y a pas de mémoire, enfin, je sais pas quoi, rien. Et alors, du coup, il a dans l'Évangile, à la fin, il dit, ah, je sais ce que je vais faire. Je vais me faire des copains, je vais me faire des amis, je vais aller trouver les gens qui ont des dettes à l'égard du gérant, et puis je vais m'arranger avec eux. C'est une vieille histoire juive, c'est-à-dire. Il s'arrange avec eux, comme ça j'aurai des amis qui vont me défendre. Et ça c'est très fort, c'est-à-dire c'est l'intercession des saints. Donc c'est vrai qu'il y a des gens à qui on ne peut pas dire de jeûner, on ne peut pas dire de prier, on ne peut pas dire de faire des méthanies, on ne peut pas dire de rester dans une situation absolument inhumaine. Tu ne peux pas humainement dire à ces personnes de rester. Quand même, il y a certains cas, tu ne peux pas. Et il reste l'intercession des saints. C'est-à-dire, laisse tout ça, essaie d'habiter ailleurs, loue-toi une piole, n'importe quoi, un garage, une niche, pour habiter ailleurs que dans cet endroit-là. Bon. Prends les saints avec toi, c'est-à-dire les icônes des saints avec toi, la prière à la Mère de Dieu, la prière à Saint-Nicolas, la prière à ton Saint-Patron, prends les saints avec toi, Fais-toi aider par les autres, demande aux gens, tu ne peux pas prier, demande aux gens de prier pour toi, tu ne peux pas jeûner, demande à ton prêtre de jeûner pour lui, ça lui va du bien. Mais on est quand même dans l'Église aussi, on est dans l'Église, on n'est pas, nous ne sommes pas des individus héroïques, des individus spirituels, surhumains, etc. Ça n'existe pas, ça ne veut rien dire ça. Nous sommes des êtres, des hommes et des femmes qui vivent en communauté, comme a dit Père Jean-Claude Dier, on est bien une fraternité, et chacun étant totalement différent de l'autre quand même de point de vue personnel, nous sommes en même temps totalement unis les uns aux autres, et il y a quand même une fraternité, une assistance spirituelle, un soutien spirituel qui est très fort. L'exemple, tu sais, il y a beaucoup de gens qui passent des examens du baccalauréat la semaine prochaine, alors pour eux c'est l'angoisse absolue, hein, c'est Quand tu passes ton bac, il n'y a rien de plus important que ça au monde. Le monde peut crever, toi, tu as ton bac. Eh bien, ces gamines, je pense à deux amis que nous avons, à qui tu envoies un SMS simplement en disant une telle, on pense à vous, on prie pour vous, pour votre examen de lundi. Mais la fille, ça lui fait un bien fou, tu vois. Et pourtant, c'est rien. Et la communauté, c'est ça, c'est aussi le SMS que j'appelle les saints messages du Seigneur. Mais c'est vrai que c'est des petites choses, hein. C'est rien par rapport à la cesse de Saint-Sissoès le Grand. Mais nous, les orthodoxes, enfin, moi je pense que nous sommes des gens assez adaptés. Nous sommes nourris quand même par l'enseignement des pères, mais nous sommes très, très adaptables. Moi, je vois les pères spirituels, c'est étonnant. Justement, un que j'aime beaucoup, que vous connaissez un peu, qui est Père Arsène d'Athènes, non, Père Porphyre d'Athènes. Vous avez lu ça un petit peu, je cite souvent ces bouquins-là parce qu'il y a deux volumes de Père Porphyre, et c'est étonnant de voir comment cet homme-là, qui est un très très grand moine, un très grand charismatique, un homme qui était capable de vous parler de votre village, du village où vous étiez né, sans y avoir été, par exemple. Il le voyait, il dit, ah oui, tu es né dans tel village en Grèce, moi c'était une région où j'ai jamais été, mais je vois, c'est à droite, en entrant, il y a une porte, la maison, elle est peinte en bleu, la chambre, et c'est là que tu es né dans ce petit lit, et il y avait une icône de la Mère de Dieu au-dessus du lit. Un type absolument fantastique, un point de vue du charisme. Mais cet homme-là, quand on le voit dans les écrits qu'on a de lui, il donne des conseils extrêmement pratiques, extrêmement simples, extrêmement adaptés. Manger comme ça. Est-ce que tu as peut-être un peu mal au ventre? Qu'est-ce que tu manges en ce moment? Est-ce que tu dors assez? Vous voyez, très, 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 très pratique. Je pense que notre église est très, très, très adaptée au monde contemporain, vraiment. Mais bon, il faut parler, il faut bouger, faut chercher. Alors, pardonnez-moi. On va conclure là peut-être maintenant. Moi, ça va être trop. Il y a la Mère de Dieu. Ah, il y a la Mère de Dieu, voilà. Il y a la Mère de Dieu aussi. Oui, parce que ça, par exemple, ouais, dans les orthodoxes, on dit qu'on n'a pas de statue. C'est vrai. Parce qu'il y a une tradition statuaire romane. Il y a beaucoup les caractères iconographiques, c'est-à-dire la stylisation, la sobriété, l'absence de psychisme affectif, de sobriété iconographique. Et donc ça ne gêne pas trop. On peut prier devant ces images-là. Il est digne en vérité de te célébrer, ô Mère.
Jésus-Christ, notre Dieu, toi qui es invisiblement présent avec nous, par la grâce de ton Esprit très saint et très bon, nous te bénissons, nous te remercions, nous te glorifions, nous te rendons grâce, nous te louons, nous te célébrons pour tous les bienfaits connus ou inconnus de nous, visibles ou invisibles, conscients ou inconscients, que chaque jour, en tout temps, à toute heure, en tout lieu, tu daignes, dans ta miséricorde infinie, ton incompréhensible sagesse, ton indicible compassion et la justesse de tes jugements, déverser gratuitement et généreusement sur nous, sur nos familles, sur nos communautés, sur ton Église entière, sur ton monde entier, sur ceux qui te connaissent et sur ceux qui ne te connaissent pas, sur ceux qui croient en toi et sur ceux qui ne croient pas en toi, sur ceux qui t'aiment et même sur ceux, s'il en existe, qui te haïssent. À toi la louange, Christ notre Dieu, avec ton Père éternel et ton Esprit très saint, bon et vivifiant. maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.
Amen.
Par les prières de nos saints pères, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, aie de miséricorde et sauve-nous.
Amen.
Voilà, merci beaucoup. Voilà, donc, on va voir cette phrase.